20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'archéologie n'y échappe pas. Dans un monde surinformé et consumériste, toute découverte, si grande soit-elle, fait la une de nos médias avant de retomber dans les profondeurs de l'oubli. Ainsi, c'est dans la solitude et le silence que le chercheur retourne à son ouvrage. Nous en avions bien entendu parlé trop brièvement, mais la découverte est si étonnante, si importante, qu'il nous fallait à nouveau rompre le silence. Pour l'occasion, son découvreur nous conte ce soir l'inattendu, une improbable trouvaille sortie des profondeurs du temps et d'un minuscule espace cavernicole. Nicolas Nodino, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence à l'université de Nice, Sophia Antipolis, chercheur dans l'unité de recherche du CNRS, le CEPA. Vous êtes bien entendu paléolithicien. Ce que vous avez trouvé, c'est de l'art, du grand art, paléolithique de surcroît. Ce que personne ne trouve généralement, le premier en armorique, nous en reparlerons. Nicolas Nodino, tout commence par la recherche de grottes et de cavités, ayant pu abriter quelques groupes préhistoriques. Cela tombe bien, il n'y a pas de cavernes en Bretagne.
Ouais, très peu en tout cas, on n'a vraiment pas beaucoup de cavernes en Bretagne. Dans le massif armoricain en général, on en connaît quelques-unes, en Mayenne, un petit peu en Finistère, mais c'est très très rare. Rien à voir avec le sud-ouest de la France ou le sud en général, avec les grandes baumes calcaires. On n'a pas de grottes, mais on a plein de petites cavités, on a plein de petites cavernes de différents types. On peut avoir des grottes creusées par la mer, des grottes marines, qui malheureusement, elles, ont été nettoyées par la remontée de la mer, et donc on a très rarement des sites qui sont encore conservés, à moins qu'elles se soient effondrées. Et puis des chaos de granit, des boules de granit qui sont tombées l'une sur l'autre et qui forment de tout petits abris, et qui, ces abris, ont été occupés par les hommes préhistoriques. Alors on a un programme de recherche avec mon collègue Grégoire Marchand du CREA là-dessus, qui s'appelle Tous aux abris, qui vise justement à répertorier ces petites cavernes. Parce que on a eu beaucoup de sites, des grands sites de plein air, des grands sites occupés par un grand groupe, qu'on connaît très bien aujourd'hui ces sites, mais il nous manque toujours ces petits sites complémentaires pour vraiment comprendre l'économie de ces populations. Donc on essaye d'aller vers ces petits sites très contraints où les gens sont restés souvent pas très longtemps pour des activités assez spécifiques.
Alors les grottes, elles ont été quand même malgré tout utilisées dès très tôt, puisque il y a un site absolument majeur avec du feu, donc très très ancien, découvert en grotte en Bretagne.
Ouais, c'est ça, c'est le site de Ménez-Drigan qui est en Finistère, à Plouinec. Alors qui pour le coup est une grotte marine, une faille d'érosion marine, mais on a eu la chance sur ce site d'avoir un effondrement qui est intervenu très tôt et qui a protégé les vestiges archéologiques de l'érosion marine. Et puis on a certainement d'autres sites en grotte qui aujourd'hui sont sous la mer, on a des grottes qui sont aujourd'hui à moins 20, moins 40 mètres sous l'eau.
Il y a plutôt des abris sous roche plutôt que des grottes, il y a aussi des phénomènes de boules.
C'est ça, ouais, les chaos granitiques, ces grandes boules, alors c'est des phénomènes d'érosion, il y a plein de types de phénomènes érosifs dans ces milieux granitiques, et ça fait des grandes boules qui parfois forment des petits abris qui font quelques mètres carrés, 2 mètres carrés, et qui ont été occupés. Alors ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas auparavant, parce que ces sites n'ont jamais été explorés pendant très très longtemps, on s'est surtout concentré sur le littoral, et on a ces petits abris, mais qui ne ressemblaient pas aux grands sites de Dordogne et du Sud en général, et qui du coup n'ont pas été explorés par les archéologues.
Bien sûr, tout ça c'est du granit, on peut penser que les carriers du 19e sont passés par là?
Alors, tous les abris ne sont pas dans du granit, le rocher de l'impératrice par exemple est dans un grès armoricain, une sorte de quartzite, mais effectivement ces boules c'est du granit et elles ont été énormément exploitées par les carriers. On a même des sites qui étaient les abris sous roche à la préhistoire et qui aujourd'hui sont des sites de plein air dans des champs puisque les boules de granit ont été emportées. Donc on a des sites qui semblent être des sites de plein air et qui sont en réalité des abris sous roche complètement démantelés.
Vous me parliez d'un programme Tous aux abris, le but c'est bien sûr de les recenser, comment faites-vous? Vous promenez dans la campagne?
Eh ben, on se promène dans la campagne et surtout, on utilise un réseau d'archéologues amateurs et qui est une vraie richesse en Bretagne, dans le Grand Ouest en général. On travaille énormément avec les amateurs et donc ce réseau de prospecteurs, les week-ends, la semaine quand ils sont en retraite, ils prospectent, ils cherchent les abris, ils les enregistrent, ils nous préviennent et nous derrière, on vient apporter de nouvelles informations. Mais ils font une grosse partie du travail.
Et ça, ces amateurs, c'est absolument une des clés, je pense.
C'est un trésor, ouais.
Le rocher de l'impératrice, puisque c'est le site que vous fouillez, se trouve à Plougastel d'Aoulas. Il serait au pied d'une falaise?
Exactement, on est au pied d'une grande falaise d'une quarantaine de mètres de haut. Alors c'est le point culminant autour de Plougastel, hein. On n'est pas dans les Alpes. Hein. Il domine la vallée de l'Elorne et le fond de la rade de Brest. C'est donc une grande falaise de grès armoricain, qui est une roche très très dure, hein, très siliceuse. Et c'est un petit décrochement au pied de falaise qui a créé cet abri qui est gigantesque pour les abris bretons. Et qui est ridicule à l'échelle des abris sous roche qu'on peut connaître dans le reste de la France, puisqu'on a une dizaine de mètres de long et 2-3 mètres de profondeur, donc quelque chose d'assez petit.
Ce fameux rocher de l'impératrice serait compliqué à fouiller, aucun engin mécanique ne peut atteindre le porche de la grotte?
Ouais, c'est ça, en fait on est dans une forêt hein, qui appartient au département du Finistère, c'est un site naturel sensible, mais effectivement la forêt est relativement loin de la route, donc on peut pas y amener d'engin mécanique, en plus le site étant protégé, on peut pas non plus y faire n'importe quoi. Ce qui rend la fouille un peu plus compliquée, surtout qu'on a d'énormes blocs d'effondrement, 30-40 tonnes, qui sont tombés sur le site, qu'on doit détruire pour pouvoir fouiller dessous. Et là, c'est pas du calcaire, c'est même pas du granit. Le granit, c'est du beurre à côté de ce matériau, c'est un matériau cauchemardesque. Et donc, c'est un vrai travail de titan, il faut perforer ces blocs avec des perforateurs, il faut avec des coins de carrier réussir à les fendre, il faut ensuite extraire des blocs de 2-3 tonnes avec des palans, des tire-forts, en s'appuyant sur les chaînes. Ça, c'est une grosse partie du travail, et c'est très complexe.
Et c'est vous qui l'avez trouvé dans ce cadre de ce programme?
Eh bien pas du tout en fait, donc ce site il est intégré dans ce programme de recherche Tous aux abris, mais à la base il était découvert il y a bien longtemps, enfin en 87, par Michel Le Goffic qui était archéologue départemental dans le Finistère et qui est encore avec moi sur le site aujourd'hui. Et donc il a découvert fortuitement après la tempête, l'ouragan de 87. Et jusqu'alors, il n'avait pas été fouillé. Donc moi, j'ai pu le fouiller après qu'il ait été racheté par le conseil départemental, ce qui a facilité la mise en place de l'opération dessus.
Alors pourquoi fouiller un tel site? Parce que justement, il est très important, très vaste en Bretagne?
Eh ben non, pour le coup, parce qu'il est petit. C'est l'intérêt, c'est que ces sites un peu vastes, alors pour l'Asie ancienne, on les connaît moins bien, mais pour d'autres périodes, on les connaît très bien. Et on avait la volonté d'aller compléter cette vision de l'économie des hommes préhistoriques en allant voir les petits sites sur lesquels ils avaient fait des choses différentes et qui étaient certainement complémentaires des grands sites, pour vraiment mieux comprendre le système économique de ces populations. Alors dans le cas du rocher de l'impératrice, ce qui était particulièrement intéressant, c'est que les quelques pièces récoltées par Michel Le Goffic à l'époque montraient bien que c'était de l'Asilien ancien, et l'Asilien ancien, on le connaît très très mal en Bretagne, on ne le connaissait même pas en Bretagne à l'époque de mon doctorat, et on le connaît très mal en France aussi, on a très peu de sites en France. Donc vraiment, c'était un site qui avait un potentiel important, et donc dès que j'ai pu, j'ai voulu aller voir ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que l'Asilien exactement? Une période tardive du Paléolithique supérieur?
C'est ça, donc c'est quelque chose qu'on a créé nous, hein. C'est une création des préhistoriens, hein. Ces périodes, l'Asilien, le Magdalénien, tout ça, les types n'avaient pas des badges magdaléniens ou asiliens, ça nous sert à discuter et avancer ensemble, mais c'est une période effectivement qui succède au Magdalénien, le Magdalénien qui est bien connu, hein, tous les sites pariétaux notamment du sud-ouest ou Pincevent dans le bassin parisien, c'est une période qui succède à ça et qui précède le Mésolithique, qui lui-même est juste avant le Néolithique, le moment où les gens se sédentarisent. Et donc c'est une période où il se passe beaucoup de changements. Beaucoup de changements qu'on a longtemps cru être très brutaux. L'abbé Breuil parlait d'une révolution asilienne, avec des gens qui étaient un peu perçus comme des gens pas très malins, qui savaient plus tailler, qui savaient plus pêcher, qui savaient plus chasser, qui savaient plus faire d'art. Et on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus complexe, que ces gens ont les mêmes capacités que les autres, voire même qu'ils en ont plus sur certains points, et que ces changements sont très progressifs et se mettent en place très très lentement.
Nicolas Nodino, quelle est la place des cavernes armoricaines dans l'ensemble des sites et des réseaux?
Et bien justement, c'est ce qu'on essaie de comprendre, hein, c'est de comprendre la place de ces petits sites, en général, dans les systèmes économiques de ces populations. Aujourd'hui, les quelques sites qu'on a pu fouiller, hein, donc c'est le cas du rocher de l'impératrice, mais aussi de Kerbizien ou de Pongla, on se rend compte que c'est souvent des sites qui n'ont pas été occupés très longtemps par les gens. Peut-être occupés plusieurs fois, mais en tout cas, à chaque fois, pas très longtemps, et souvent pour des activités assez spécialisées. Ça peut être un camp de chasse, ça peut être un endroit où on va tailler des matériaux un peu particuliers, enfin...
Et c'est des petits groupes?
A priori. Mais alors ça, pour le coup, c'est difficile à dire. Mais on les imagine comme des sites occupés par des petits groupes, ouais.
Donc on aurait des grands sites dans les plaines, par exemple, ouais. Et puis des petits sites satellitaires avec des activités particulières dans ces abris sous roche.
Alors c'est tout à fait possible. Alors pour l'Asilien, on est vraiment très très loin de pouvoir le dire. Il nous manque beaucoup beaucoup d'informations. Par contre, sur le Mésolithique récent, Grégoire Marchand a bien montré ça. En fait, on a vraiment un système avec des sites littoraux très importants. Pas sédentaires, où les gens restent très longtemps, et des groupes importants, où il y a des sépultures très particulières aussi, etc. Des sites où on va pêcher, voilà. Et des sites dans les terres, y compris des abris sous roche, qui eux semblent être occupés vraiment pour des activités très spécialisées, certainement en lien avec ces sites littoraux.
Alors nous voici bien sûr dans une Bretagne, et durant une époque où la mer était bien au-delà des rivages actuels.
Très loin, oui. Alors on estime, à l'Asilien ancien, le niveau de la mer 80 à 100 mètres plus bas. Alors 80 à 100 mètres plus bas, quand vous êtes en Méditerranée, sur la côte d'Azur, c'est absolument rien, c'est quelques longueurs de brasse. Par contre, en Manche, en mer d'Iroise ou en Atlantique, 100 mètres, c'est quasiment 100 km plus à l'ouest. C'est-à-dire que le trait de côte était 100 km plus à l'ouest. Pour ceux qui connaissent le Finistère, on est au large de Ouessant, donc on est vraiment très loin de la ligne de côte actuelle.
Et justement, si les Asiliens pêchaient, ces sites seraient aujourd'hui sous l'eau et totalement disparus?
Et ouais, et ça c'est mon calvaire. C'est qu'en fait, c'est ce système qu'on connaît bien pour le Mésolithique récent, il y a de grandes chances qu'il ait été également présent à l'Asilien, mais on le saura peut-être jamais, en tout cas on aura du mal à le savoir, parce qu'il y a une grosse partie des territoires qui ont complètement disparu et qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à prospecter et à renseigner.
Aujourd'hui, le trait de côte est rongé. Les archéologues, j'en profite justement pour parler de ça, les archéologues s'en inquiètent, prospectent, surveillent, les sites partent à la mer.
Exactement, ouais. L'érosion marine ne fait pas juste tomber des maisons construites un peu trop près de la côte en Normandie, mais elle participe aussi à détruire des sites archéologiques, que ce soit sur le littoral ou dans les îles. Et il y a un programme de recherche qui s'appelle Alerte, hein, qui est dirigé par Marie van der au CREA, et qui vise justement à essayer de renseigner au maximum ces sites érodés par la mer avant qu'ils soient totalement détruits. Donc encore une fois, on fait appel à des prospecteurs, à des amateurs, hein, qui rôdent sur le littoral à la recherche de sites rongés par cette érosion marine, notamment en hiver pendant les grandes tempêtes d'hiver.
Et les grandes tempêtes ont détruit beaucoup de choses ces derniers temps.
Énormément. On trouve des sites tout le temps, en fait. Si vous allez sur n'importe quel bout de côte, notamment en Bretagne, vous allez trouver à la fois des fours à sel antiques, vous allez trouver des sépultures, des tombes à coffres, vous allez trouver bien sûr du paléolithique, complètement érodé, des poteries, etc. On en trouve beaucoup. On a même trouvé des traces de pieds sur des estrands et des choses qui sont dégagées quand le sable part, qui sont là pendant une marée basse et qui, à la marée suivante, sont complètement détruits.
Vous parlez des fouilles du Rosel?
Notamment le Rosel. Et puis en Angleterre aussi, il y a eu une découverte comme ça il y a quelques temps. Je ne sais plus exactement où c'était, mais c'est exactement ce type de découverte. Il faut être là au moment où elles apparaissent avant qu'elles soient complètement détruites.
Nicolas Nodino, voici 14 000 ans. Nous voici dans une période particulièrement instable pour les groupes humains. Le climat serait en pleine évolution?
Oui, alors on est dans ce qu'on appelle le tardiglaciaire, donc une période qui succède au pléniglaciaire, la dernière période glaciaire, où la mer pour le coup était beaucoup plus basse, 125 mètres environ, et juste avant le réchauffement climatique dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui a commencé il y a environ 10 000 ans. Donc une période où il y a un réchauffement global, mais qui va être entrecoupé par plein de petites phases de refroidissement, donc quelque chose de très instable climatiquement, et avec des répercussions importantes à la fois sur la faune et sur la végétation.
Tout change ?
Tout change, ouais, mais tout change progressivement aussi, et puis avec différentes phases. Donc on sait que c'est le moment où le renne va par exemple disparaître, enfin disparaître, va partir plus vers le nord. Mais au-delà de ça, la végétation, effectivement, on passe d'environnements très steppiques à des environnements qui progressivement vont être plus ou moins boisés avec différentes essences d'arbres. Donc des choses qui ont des répercussions importantes sur les comportements des cercueils.
Vous avez reconstitué le paysage autour donc du rocher de l'Impératrice?
Alors on essaye. Le problème, c'est qu'on a très peu de données. Donc
Les charbons de bois,
voilà. C'est ma collègue Isabelle Terry-Parizeau qui travaille sur les charbons de bois. Donc là, on a un petit peu d'informations. C'est en cours d'étude. Par contre, en Bretagne en général, des séquences environnementales pour le tardiglaciaire, on en connaît très peu. Et donc on essaie de travailler là-dessus. J'ai lancé un programme sur un lac là, qui pourrait éventuellement un jour nous apporter des informations avec des collègues environnementalistes.
Les variations climatiques sont-elles une des principales raisons des changements sociétaux? Jared Diamond avait consacré un livre sur ce sujet entre climat et effondrement sociétal, le fameux collapse. Qu'en pensez-vous pour vos périodes anciennes en Bretagne?
Alors ça, c'est un sujet vraiment passionnant. Moi, c'est un des sujets qui m'anime vraiment dans ma recherche, quoi. Mais par contre, c'est très compliqué. C'est vraiment un sujet qui est très très difficile à aborder. À la fois parce qu'on manque de données archéologiques, mais on manque aussi de dates précises, on manque aussi beaucoup de séquences environnementales. Et aujourd'hui, on a tendance à raisonner sur les séquences du Groenland, en fait, pour parler des changements climatiques. Alors qu'en revanche, enfin, on ne sait pas vraiment ce qui se passe au niveau local, toujours, quoi. Donc il faut vraiment qu'on arrive à avoir plus d'informations au niveau local. Et puis après, au-delà de ça, il n'est pas certain que les environnements réagissent directement à des changements climatiques. Il peut y avoir un certain temps, un certain décalage pour que l'environnement réagisse à ces changements climatiques. Et au-delà de ça, il faut certainement aussi un certain temps pour que des sociétés humaines, elles, réagissent à ces changements environnementaux. Donc, on a tendance, en général, à essayer de faire coller un réchauffement avec un changement technique, alors qu'en réalité, peut-être que ce qu'il faudrait pister, c'est à l'inverse, plutôt un décalage. Peut-être que ce décalage pourrait être révélateur d'un lien. Mais bon, c'est des sujets vraiment complexes. Moi, je reste intimement persuadé que la répartition des ressources ou le comportement d'une ressource animale va jouer sur des changements techniques. Mais ça reste très difficile à mettre en évidence. Et il y a certainement d'autres paramètres qui rentrent en jeu, des paramètres plus sociaux. On ne peut pas généraliser à l'échelle de l'humanité. On le sait même en ethnographie, on sait qu'il y a des groupes qui vont pour des questions sociales ou culturelles, ne vont pas du tout réagir de la même façon à un stimuli climatique que d'autres, quoi. Donc, dans tous les cas, s'il y a une influence du climat, ce que je pense sincèrement, c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi, c'est pas un phénomène catastrophe qu'on peut le voir dans certains mauvais films. On est sur quelque chose de plutôt logique et inconscient, d'adaptation progressive, à mon avis, d'un système à des conditions particulières.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Nicolas Nodino, votre grande découverte, c'est bien entendu des pièces d'art, ce que l'on appelle de l'art mobilier dans le jargon des pariétalistes paléolithiques.
C'est ça, ouais, alors, de l'art mobilier avec plein de cailloux taillés aussi, parce que mine de rien, cet art mobilier, il a tout son intérêt parce qu'il est aussi associé avec du matériel lithique. Donc, c'est très beau, hein, et je suis le premier ravi d'avoir découvert ces plaquettes gravées, mais ce qui fait leur intérêt aussi, c'est le contexte dans lequel elles sont découvertes.
45 pièces publiées, vous avez refait une campagne depuis, combien aujourd'hui ?
Alors, environ 80 fragments, dont certains qui font 5 mm, hein, donc c'est pas 80 aurochs rayonnants, hein, loin de là. Puis parmi ces 80 fragments, il y en a certains qui sont encore douteux, qu'il faut qu'on regarde de plus près, etc. Donc on va dire entre 60 et 80 pièces gravées. Ouais.
La pièce majeure serait des chevaux et des aurochs. Comment sont ces chevaux ?
Alors, les chevaux, on en a pas mal, en fait. On en a déjà 4 sur une même plaquette, une grande plaquette, sur laquelle, sur une face, on a un cheval entier, très détaillé, très naturaliste, avec les articulations très bien figurées, les sabots, les yeux très discrets, mais qui sont présents. Et sur l'autre côté, 2 chevaux encore plus figuratifs, qui sont bouche dans bouche, naseau dans naseau, ils partagent le même naseau. Ils sont en miroir sur la plaquette. Et il y a un petit poulain entre les pattes d'un des individus, ce qui est plutôt sympa. Et à côté de ça, d'autres petits chevaux plus simplifiés, plus schématisés, hein, sur d'autres petites plaquettes, et des aurochs, au moins 2 aurochs sur une même plaquette, dont un assez particulier, avec des rayons, autour de, enfin des traits concentriques autour de sa tête, qui en font une figure assez originale, voire même unique pour le paléolithique français.
C'est gravé sur quoi ?
Sur du schiste, sur des plaquettes de schiste, un schiste de bonne qualité, un schiste ardoisier. Dont on essaie de mieux comprendre la provenance. A priori, il est local, mais on va essayer de le vérifier avec des analyses physico-chimiques. Mais donc un schiste local de Plougastel, hein, qui a été récolté sur place. Et a priori, gravé sur place, parce qu'on retrouve des outils qui ont servi à graver de la pierre. Donc bon, on ne peut pas faire le lien évident, mais il y a de très grandes chances que les plaquettes aient été gravées au moins pour une part sur le site.
Qu'en est-il des techniques ? On a du champ levé, on a ce genre de choses ?
Ouais, on a un petit peu de champ levé. C'est une gravure assez complexe avec différents types de gravures, différents types d'outils de gravure a priori, hein, des gravures profondes, des gravures plus fines, du champ levé effectivement, peut-être aussi des abrasions, peut-être aussi un travail du support avant gravure. Donc on a quelque chose de relativement complexe, hein. On n'est pas sur quelque chose qui est fait dans l'instant, on est quelque chose d'assez réfléchi.
Le roc est bien sûr l'élément central, une sorte de taureau rayonnant qui semble extrêmement valorisé dans votre site.
Et oui, enfin bon, ces rayons-là, ils sont...
Ils sont comment d'ailleurs ces rayons ?
Ils sont beaux. Non,
vous avez la tête de l'auroch, c'est ça ?
Exactement.
Et au-dessus, une sorte de couronne de rayons ?
Autour, en fait. Hein, ça part aussi en dessous la mâchoire. On a ces rayons très profonds, très nets. Hein. On connaît des représentations avec des choses qui pourraient ressembler à des rayons, mais là, c'est vraiment très très net, hein, très, très clair. Alors après, quant à l'interpréter, moi, déjà, je suis pas la personne la plus apte à le faire parce que je suis pas du tout. Moi, je travaille sur la technologie lithique, hein, moins sur l'art, mais. Puis je fais attention à ces histoires d'interprétation, mais il y a quelque chose d'intéressant en tout cas, quoi. Ils n'ont pas fait ça pour rien et on pourrait imaginer plein de choses.
Et puis, ils portaient de la couleur.
Un petit peu, ouais. Ça, c'est aussi un point intéressant, c'est qu'on a trouvé dans les gravures des pigments noirs. Des pigments noirs qui ont été analysés par spectrométrie Raman, hein, par Ludovic Bello-Gurlet à Jussieu. Et on a analysé donc, ces pigments qui seraient du carbone, donc potentiellement du charbon de bois. Donc ils auraient pu surligner les gravures en appliquant du charbon de bois. On a 4-5 fragments qui portent ces traces de charbon de bois. Alors après, les couleurs, on n'en a pas. D'autres, des couleurs du rouge, par exemple, on n'en voit pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Hein. On est dans des milieux qui sont quand même très difficiles, hein, très érosifs, etc. Donc peut-être qu'il y avait de l'ocre sur ces plaquettes et qu'il a disparu.
Est-ce que ces plaquettes ont souffert ?
Oui.
Souffert du temps.
Elles ont souffert du temps. Alors, il faut qu'on arrive à mieux comprendre ces phénomènes-là. On travaille dessus à l'heure actuelle avec Elena Manesti et Patrick Payet. Essayer de mieux comprendre les causes des fragmentations de ces plaquettes. Parce que peut-être qu'on a des fragmentations qui sont intentionnelles, liées à l'utilisation que les hommes préhistoriques faisaient de ces plaquettes, c'est possible. Mais on a aussi des altérations qui, elles, sont clairement liées à des activités récentes, anthropiques, quoi, notamment des coups de pioche. Puisque le site a été découvert grâce et à la fois malheureusement à cause de grimpeurs qui ont creusé cet abri sous roche pour pouvoir aménager des voies d'escalade. Et donc avec les pioches, ils ont cassé des plaquettes gravées.
Vous ne lavez pas votre matériel tellement il est précieux ?
Alors, c'est pas parce qu'il est précieux, mais c'est parce qu'on veut pas altérer d'éventuelles informations. Donc on le lave le moins possible. Et on le lave de la façon la plus méthodique possible. Donc ce qu'on fait pour le moment, c'est que bon, sur le site, pour savoir si c'est gravé ou pas, ben, on est bien obligé de mettre un peu d'eau dessus. Parce que sinon on devrait garder des tonnes et des tonnes de cailloux. Et après, en labo, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des cure-dents détrempés, hein, et sous-binoculaires. Et on va nettoyer uniquement les zones d'intersection ou les zones qui ont vraiment un intérêt majeur. Quitte à laisser certaines zones sous la terre, et on verra après, je pense, avec un restaurateur, quelle est la meilleure façon de traiter ces plaquettes.
Certaines plaquettes ont des sortes d'encoches, d'autres auraient pu être volontairement cassées, symboliquement cassées.
Eh ben ouais, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose à l'heure actuelle. On travaille dessus. Les coches, je pense qu'elles sont vraiment liées à des coups de piochon ou des choses comme ça. Des choses vraiment. On sait que les Allemands ont occupé le site aussi, qu'ils y ont creusé, donc ils ont pu aussi endommager pas mal de matériel archéologique. Mais on a possiblement aussi effectivement des cassures intentionnelles. Donc ça, il va vraiment falloir qu'on travaille sur ce point-là.
Pour la première fois, nous voyons dans cette culture asilienne, donc vieille d'environ 14 000 ans, une sorte de continuité avec les périodes plus anciennes. Et alors, ça, c'est quelque chose d'absolument majeur.
Alors oui, alors à la fois donc sur le plan de la pierre taillée, ça fait depuis la fin des années 90 qu'on se rend compte que l'asilien n'est pas justement une révolution et que tout ça est très progressif, hein. C'est les travaux notamment menés dans le bassin parisien, sur le site du Clozeau, par Pierre Baudu, Boris Valentin, qui nous montrent bien qu'on a quelque chose de très progressif dans les changements techniques qui mènent vers ce qu'on appelle l'asilien. Alors après, on connaît très mal ces sites, on a peu de sites de l'asilien ancien, donc à chaque fois qu'on en a un, effectivement, ça nous permet de confirmer et de préciser ces modalités de changement technique. Par contre, ce qu'on connaissait mal, effectivement, c'est comment se comportait l'art dans cette période-là. L'art asilien, il est très particulier, il est très géométrique, on n'a plus d'art pariétal, on n'a que de l'art mobilier, uniquement géométrique, plus d'animaux, hein, juste des triangles, des traits parallèles. Et on a longtemps pensé qu'en fait, cet art asilien, il apparaissait dès le début de l'asilien. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, notamment grâce au site du Rocher de l'Impératrice, parce qu'on a très peu de sites avec de l'art pour l'asilien ancien, bah que finalement, ces gens maintiennent un système symbolique tout à fait similaire à celui du Magdalénien, donc avec des animaux très bien représentés, très détaillés, et que ces changements symboliques mettraient plus de temps à changer que les changements techniques. Ce qui est en soi n'est pas aberrant, hein. Aujourd'hui, votre technologie, elle avance beaucoup plus vite que vos croyances. En fait, on a beau avoir des téléphones de plus en plus perfectionnés tous les ans, on garde quand même nos croyances, nos traditions héritées de nos parents, de nos grands-parents, même si elles s'alimentent des rencontres qu'on fait dans notre vie, mais les changements techniques vont souvent beaucoup plus vite que les changements symboliques. Mais alors ça, archéologiquement, c'est très rare de le mettre en évidence. Et c'est ce qui fait, à mon avis, l'intérêt majeur du site du Rocher de l'Impératrice.
Alors cet art est très naturaliste, alors que l'asilien, il y a 14 000 ans, était considéré par les archéologues comme justement une sorte de révolution, la naissance de l'abstraction.
Exactement, ouais. Alors ce moment où l'abstraction va se développer, on a encore du mal à vraiment bien le poser, hein. Dans l'asilien récent, c'est évident que les gens ont de l'art géométrique, mais est-ce que c'est dès le début de l'asilien récent? Est-ce que c'est dans l'asilien ancien, à la fin de l'asilien ancien? Enfin, on a encore beaucoup de mal à placer ce moment, ce shift. Toujours est-il qu'au début de l'asilien, bah, les gens ont encore, très clairement, un art très figuratif, très naturaliste, avec des animaux très détaillés, quelque chose de très soigné, qui est tout à fait comparable au Magdalénien. D'ailleurs, il faut se poser la question de certains sites un peu mélangés du sud-ouest, ou dans lesquels on a de l'art typique du Magdalénien. Il faut se poser la question de savoir si on n'a pas aussi de l'asilien ancien. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan stylistique, il n'y a pas beaucoup de moyens de faire la différence entre de l'art asilien ancien et de l'art de la fin du Magdalénien.
Donc, si je comprends bien, vers 14 000 ans en Bretagne, ouais. On est avant, justement, on est encore bien sûr dans des représentations naturalistes, et on est avant ce basculement de l'abstraction, qui se fera donc probablement plus tard.
Alors, on est avant ou on est en parallèle, hein. Je pense qu'on est avant, mais peut-être qu'on trouvera un site contemporain sur lequel on a déjà de l'art géométrique. De toute façon, des symboles géométriques dans l'art pariétal, on en connaît dans tout le paléolithique. Hein. Si vous allez à Lascaux, il y a plein de taureaux et plein de chevaux, mais il y a aussi plein de signes géométriques qu'on ne comprend pas. Donc,
les fameux tectiformes.
Exactement, donc ils sont présents. Ce qui fait la particularité de l'asilien récent, c'est qu'il n'y a plus que ça. Hein. Donc, voilà, l'asilien ancien, a priori, pour l'instant, le Rocher de l'Impératrice, la Brimura aussi dans le Lot, hein, qui nous renseigne pas mal sur ce système symbolique de l'asilien ancien, eh bien, on a clairement de l'art encore très figuratif.
Loin de la Dordogne, du Quercy ou de l'Ariège, l'art préhistorique était bien sûr exceptionnel en Bretagne. Il existe pourtant dans la vallée de Sauge, près de Laval en Mayenne.
Exactement. Alors l'art préhistorique existe en Bretagne, mais pas pour le paléolithique. On en a un peu pour l'asilien récent, pour le coup. On a pas mal de petits galets asilien récent. On en a pour le mésolithique aussi, hein, je pense notamment au poinçon de Begendorschen, qui est gravé avec des signes géométriques dessus, qui est mésolithique final, si je ne me trompe pas. Et puis pour le néolithique, hein, on a toutes ces mégalithes avec des gravures. Donc on a de l'art préhistorique, mais pas trop paléolithique, pas beaucoup. À part effectivement dans le canyon de Sauge, hein, qui est le seul, un des rares massifs karstiques, avec des grottes, hein, dans le massif américain.
Une sorte d'exception.
Une sorte d'exception, une belle vallée, un canyon en fait. Hein, et beaucoup de grottes préhistoriques dans cette vallée, dont deux, si je ne me trompe pas, deux avec de l'art pariétal.
Mayenne Science, la des ruines, et puis moins bien la grotte Margot. La des ruines, extraordinaire. On serait vers 20-25 000 avec une période qu'on appelle gravétienne et des grands chevaux avec des gros ventes et des jolies pattes. C'est à peu près ça, non?
Ouais, exactement. Alors, je ne suis vraiment pas un spécialiste de l'art. Hein. C'est un site qui est étudié par Romain Pigeot. Et effectivement, on serait dans du gravétien. Et même sur le plan stylistique, c'est vrai que ça rappelle ce qu'on peut connaître, par exemple, la Pêche-Merle dans le Lot. Donc gravétien, et on a aussi du magdalénien à Margaux, je crois. Ouais.
Des plaquettes, on en connaît dans de nombreux sites. J'ai souvenir d'avoir, par exemple, visité la grotte du Placard avec Jean-Claude. Mais il faut aussi citer, par exemple, la grotte dans l'Aisne. Voilà, donc, trouver des plaquettes gravées, c'est une chose qui existe, en revanche.
Ouais, c'est même très fréquent dans tous les sites du Sud-Ouest. Hein. C'est... Alors, plaquettes gravées, plaquettes en pierre, galets, hein, je pense aux galets d'Étiole notamment. Après, ce qu'il y a aussi de beaucoup gravé, c'est des ossements. Alors, les ossements gravés, on en connaît beaucoup dans le Magdalénien. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'au Rocher de l'Impératrice, on ait eu des ossements gravés. Le problème, c'est qu'en Bretagne, les os ne se conservent pas. Les os ont été rongés par l'acidité des sols, donc on n'a pas d'os. Mais peut-être qu'on avait plein d'ossements gravés sur le site. Quoi.
Donc, il vous manque beaucoup de choses pour finir.
On fait de la préhistoire.
Non, mais spécialement en Bretagne, si vous n'avez pas d'os.
Et ben, ça nous apprend à mieux regarder les cailloux. Mais non, il nous manque énormément de choses. Il nous manque énormément de choses. Tous les matériaux organiques sont détruits. Donc à partir de là, pas d'os. Mais on arrive quand même à parler d'os sans avoir l'os. Hein. C'est notamment en étudiant les tranchants des outils, hein, la tracéologie, en regardant à quoi ont servi les outils. Ben, on peut parfois indirectement avoir des traces de gravures d'os, de découpes sur des ossements, etc. Donc on arrive quand même indirectement à en parler. Mais ça nous limite énormément dans nos réflexions quand même. Oui.
En tout cas, Nicolas Nodino, cet art asilien vieux donc de 14 000 ans est très rare en France. On connaît bien plus les périodes anciennes.
Exactement, en fait. Donc les sites asiliens anciens sont déjà très rares. On en connaît relativement peu, puis surtout on en connaît beaucoup qui ont été fouillés il y a très longtemps, avec des méthodes qui n'étaient pas forcément celles qu'on a aujourd'hui, donc avec des risques de mélange importants entre les différentes couches. Et parmi ces sites, des sites avec de l'art, on en connaît encore moins. Des sites bien calés sur lesquels il y a peu de doutes. Il y a effectivement la Brimura dans le Lot, il y a le site du Closot dans le bassin parisien où il y a quelques cortex gravés. Il y a aussi une grotte magnifique en Seine-Maritime qui est la grotte de Gouy, qu'on a tendance à vouloir attribuer à l'asilien ancien, mais avec des pincettes quand même. Et puis plein de petits sites sur lesquels on a de l'asilien ancien, mais on a aussi du magdalénien, donc on ne sait pas trop quoi faire de l'art, et sur lesquels il faut retravailler. Donc on a effectivement très peu de sites avec de l'art, et le Rocher de l'Impératrice est le seul où on a uniquement l'asilien ancien, dont on est sûr que les plaquettes appartiennent bien à cette période.
Vous êtes donc pionnier?
Ouais, je suis pas pionnier, je sais pas si je suis pionnier, mais je contribue à cette recherche-là et ça fait plaisir.
En tout cas, comment expliquez-vous la découverte de 166 plaquettes sur lesquelles il n'y avait absolument rien de gravé dans le petit abri, la petite cavité de Kerbicien dans le Welgoat?
Alors, pas gravé et pas peinte. Donc effectivement, à Welgoat, à Kerbicien, une fouille de Grégoire Marchand, on a... associé à du matériel de l'asilien ancien, des plaquettes de schiste qui ne sont pas locales, hein, qui ont été apportées sur le site depuis quelques kilomètres et qui n'ont pas été travaillées. Alors, est-ce qu'elles ont été emportées en vue d'être travaillées plus loin? Est-ce qu'elles ont été emportées parce qu'elles avaient un intérêt en tant que support? Ou est-ce qu'elles ont été peintes et que simplement on n'a plus les traces de ces pigments? C'est une question aujourd'hui à laquelle on n'a pas réussi à répondre. Mais c'est un point très important parce qu'effectivement, c'est parmi les deux seuls sites asiliens anciens qu'on ait en Bretagne. Et sur ces deux seuls sites, on a toujours des plaquettes de schiste. Alors, dans un cas gravé, dans l'autre non, mais ça pose quand même une question. Ouais.
Nicolas Denido, vous nous disiez que le Rocher de l'Impératrice, c'était un petit site avec des petites activités, éventuellement de chasse ou autre. La découverte d'art tend à prouver que d'autres activités se sont déroulées dans la cavité.
Alors oui, donc sur ce site, on a beaucoup d'outils, très très peu de débitage, on a près de 40% d'outils, donc les gens sont venus a priori avec des outils déjà débités, ils ont produit également beaucoup de pointes de flèche sur le site, donc on imagine effectivement un site occupé pas longtemps, par peu de gens, certainement à plusieurs reprises en tout cas, mais pour des activités très ciblées, certainement un petit camp de chasse, mais on a de l'art. Donc, est-ce que ça donne un statut particulier au site? Moi, je pense pas. Je pense que cet art peut se faire tout à fait dans la sphère domestique. Les gens n'avaient pas la télé, donc ils pouvaient très bien graver les plaquettes gravées. Mais voilà, ça me paraît pas du tout incompatible avec une interprétation comme halte de chasse.
Nicolas Nodino, merci beaucoup et tenez-nous au courant de vos découvertes. Carbone 14 était réalisé par Alexandra Longuet et à la technique Diana Alcide Tanière. Et avec bien sûr la collaboration d'Anne-Catherine Lechat. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, sur le fil de l'épée, nous parlerons des armes et de l'émergence de la guerre.